Il y a beaucoup de monde ce soir-là devant les barrières du site ultra sécurisé d'Eurocontrol. Beaucoup de grosses cylindrées aussi. Nous sommes le 30 septembre 2021.
Vous inquiétez voilà, pas.
C'est parti mon kiki.
Et si je suis là au siège bruxellois de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, c'est parce que tous les acteurs du dossier du survol sont réunis pour la première fois depuis de très longues années.
Ok, bah on va y aller direct.
Ouais, ouais.
Direction et syndicats de l'aéroport, aiguilleurs du ciel, associations de riverains, bourgmestres bruxellois et des deux Brabants, tous ont répondu à l'appel de la plateforme de concertation lancée par le nouveau ministre de la Mobilité. Je m'appelle Jérôme Durand, je suis journaliste à la RTBF. Vous écoutez Sous les avions Bruxelles, le podcast qui vous parle de la manière dont l'État belge organise le survol de sa capitale. Épisode 4, et maintenant, on fait quoi ?
Merci.
Ça va pour
vous ?
Vous
voulez filer ? Ouais, merci.
Allez,
bonne réunion.
Je croise notamment Frédéric Petit et Vincent De Wolf.
Ben évidemment, on vient, puisqu'on est des personnes de dialogue.
On y va avec un esprit constructif, très curieux, et on espère que ce processus permettra d'apporter des réponses.
Mais en grattant un peu auprès des bourgmestres de Wezembeek-Oppem, commune de la périphérie flamande, et d'Etterbeek, commune bruxelloise, je sens un certain scepticisme.
Donc on vient avec plaisir, mais aussi avec des pieds de plomb, parce qu'on se demande comment on va trouver une solution dans un dossier qui est bloqué depuis de nombreuses années. Il y a quand même des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que vous voulez ? Chacun veut les avions, mais personne chez soi. Donc est-ce qu'il y a une volonté qu'on se neutralise tous en nous mettant tous en même temps ? C'est un peu la crainte qu'on a.
Vous avez l'impression que ça peut mener à quelque chose, cette sorte de méga-conférence avec vraiment tous les intérêts représentés ?
C'est un challenge évidemment énorme puisqu'on parle de consensus entre des parties qui ont des intérêts souvent diamétralement opposés.
De cette première réunion de la plateforme de concertation, je ne saurais rien.
Désolé, je vais vous demander de quitter le
site. Dossier trop émotionnel, besoin d'apaisement, loin des micros et caméras, je suis prié de rester dehors. Par contre, le ministre de la Mobilité, Georges Gilquinet, me convie quelques jours plus tard à son cabinet qu'il occupe depuis un an.
C'est un dossier qui, depuis 20 ans, suscite beaucoup de polémiques, d'énervement, avec une multiplicité d'acteurs. Et moi, je trouve, en tant qu'écologiste, que la première des choses, c'est d'écouter les personnes et de leur permettre aussi de s'écouter, les différents points de vue. Les habitants de la région bruxelloise doivent pouvoir parler, que les représentants des communes des deux Brabants, flamands et wallons, les opérateurs, etc. Et entendre le point de vue de chacun et essayer de déterminer une feuille de route commune.
Chaque ministre dit qu'il va consulter. Qu'est-ce qui vous fait dire que celle-ci, ce sera la bonne ?
Peut-être que mes prédécesseurs ont dit qu'ils allaient consulter, mais moi, je le fais, en tout cas. Je ne sais pas si ce sera la bonne. On essaye vraiment de faire des choses avec méthode, calmement, dans le respect, mais aussi avec détermination pour trouver des solutions, sans promettre la lune. Je pense que ça ne sert à rien dans ce dossier.
Alors, est-ce la bonne méthode ? Je l'ai demandé à ceux qui suivent le dossier depuis très longtemps et les réponses vont dans le même sens. Laurent Ledoux, président du SPF Mobilité de 2013 à 2016.
Ce que le ministre Gilquinet met en place est à l'image de ce qui a été fait depuis Galland, c'est-à-dire de l'enfumage total, faire traîner les choses pour que précisément rien ne se décide.
Antoine Wilhelmi, fondateur de l'association Plan Watelet, pas question.
C'est une gesticulation pour gagner du temps, c'est le principe même de l'encommissionnement. On met autour de la table plusieurs dizaines de personnes dont on sait dès le départ qu'elles ne s'entendront pas sur une quelconque solution. Le ministre Gilquinet, en réalité, il sert juste à gagner du temps dans ce dossier et à arriver jusqu'à la fin de la législature sans avoir à trancher.
Frédéric Dobrusquez, expert académique du survol à l'ULB.
Moi, je pense qu'on a déjà énormément concerté dans ce dossier. On a écouté les uns et les autres. Les positions entre les différents quartiers, entre les habitants, le monde économique, etc. Tout ça est simplement non conciliable. Donc, à un moment, il faut adopter des principes, les assumer et faire son deuil de pouvoir contenter tout le monde dans un dossier pareil.
Partir de principe, je l'ai beaucoup entendu dans la bouche de mes interlocuteurs. La suppression des vols de nuit en est un qui rallie beaucoup de monde. Ou à défaut, l'allongement de la nuit aérienne, une heure plus tôt le soir, une heure plus tard le matin. Autre principe, tenir compte de la densité de population, autrement dit survoler le plus possible les zones les moins peuplées.
On adopte une utilisation des pistes et un choix des routes qui conduit à minimiser le nombre de personnes impactées par le bruit et soumises à un risque d'éventuel accident. Ça, c'est vraiment le béaba, et on fait ça dans presque tous les aéroports du monde. Ça va mécontenter certaines personnes, on les exproprie ou on les dédommage, mais au moins on fait quelque chose.
Cela nécessiterait aussi, encore une fois, de redéfinir les routes aériennes. Et sur ce point, le ministre Gilles Quinet se mouille un peu plus que sur les autres sujets.
Toucher à ces routes aériennes, d'autres avant moi ont essayé. Ça génère des conflits incessants qui peut-être nous éloignent des solutions. Parce que personne n'a envie d'avoir un avion à basse altitude au-dessus de sa tête. Il ne suffit pas de déplacer le problème pour le résoudre.
Très clairement, le ministre mise plus sur des mesures techniques qu'il discute au sein d'un groupe composé de représentants de l'aéroport, des compagnies aériennes et des aiguilleurs du ciel. Jouer sur les techniques d'atterrissage, de décollage, de gestion de flux, avec notamment comme objectif de faire monter plus vite, plus haut les avions. Georges-Gilles Quinet regarde beaucoup les solutions mises en place à l'étranger, à Londres ou à Amsterdam par exemple. Amsterdam, où les autorités ont modifié le plan des pistes avec succès. C'est ce que m'explique le médiateur fédéral pour l'aéroport de Bruxelles National, Philippe Touède.
À Schiphol, on a construit une piste totalement décentrée au milieu des champs, qui est assez loin de l'aéroport, et les avions parcourent au sol une certaine distance avant de décoller. Cette piste, tant l'atterrissage qu'au décollage à Schiphol, ne gêne aucune nuisance acoustique et ne survole pas grand monde. Donc l'idée éventuelle, ce serait de faire la même chose ici. Mais le problème, c'est que vous allez installer une piste en région flamande pour éviter le survol de la région de Bruxelles-Capitale. Et c'est là que la contestation se fait, dans le sens où les bourgmestres flamands et la région flamande ne sont pas d'accord avec une modification des structures de piste, parce qu'eux estiment que Bruxelles doit être survolée. Donc l'idée était de construire une autre piste ou de reculer la 25 gauche d'au moins 3 km. Mais là, ça implique des expropriations, dont l'expropriation de la maison du bourgmestre de Steenhokkerzeel, qui n'est pas du tout d'accord.
On dit parfois que pour résoudre le survol de Bruxelles, une génération politique devra s'éteindre. On a longtemps dit aussi que c'était le dossier politique belge le plus inextricable avec la question de la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde. BHV est scindé depuis bientôt 10 ans. Tout espoir n'est donc pas perdu pour les centaines de milliers de personnes survolées à Bruxelles et dans sa périphérie. Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de Sous les avions Bruxelles, un podcast La Première réalisé par Jérôme Durand et Nicolas Van de Weyer avec les archives de la Sonuma. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à partager, et si vous voulez découvrir l'offre podcast de La Première, rendez-vous sur lapremière.be.